Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, tour d'horizon du 70e débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies.
The 13th plenary meeting of the General Assembly is called to order.
Le sommet sur le développement durable achevé, l'Assemblée générale a entamé le lundi 28 septembre 2015 le débat général de sa 70e session auquel participaient les chefs d'État, de gouvernement et autres dignitaires de l'ensemble des 193 États membres et observateurs de l'ONU. Premier à prendre la parole, le secrétaire général a souligné dans son discours liminaire que nous vivons dans une époque de rude mise à l'épreuve, mais aussi porteuse d'occasions remarquables. Ban Ki-moon est aussi longuement revenu sur les répercussions de la crise en Syrie. Il a aussi insisté sur la question des changements climatiques avec à l'esprit l'adoption, 3 jours auparavant, le 25 septembre, des 17 nouveaux objectifs du développement.
La dynamique enclenchée peut nous servir à conclure un accord robuste sur les changements climatiques en décembre à Paris. Cela étant, il est clair que les objectifs nationaux présentés par les États membres ne suffiront pas. Le choix qui s'offre à nous est le suivant. Revoir nos ambitions à la hausse ou risquer de dépasser le seuil de 2 degrés que les scientifiques nous disent de ne pas franchir. Faisons tomber le mur. Soyons créatifs. Engageons les ministères associés de poursuivre des objectifs contradictoires. Ne restons pas chacun dans notre coin, mais unissons nos forces, planifions à long terme et ayons la volonté de faire les choses autrement.
I thank the Secretary General of the United Nations.
De son côté, Måns Lykketoft, le président de la 70e session de l'Assemblée générale, a lui aussi mis en garde contre les conséquences catastrophiques que pourraient avoir les changements climatiques si aucune action n'est prise. Il a appelé lundi les dirigeants du monde à prendre des décisions d'envergure pour faire cesser les conflits dévastateurs et commencer à investir généreusement dans le développement durable.
Señor Måns Lykketoft.
Selon la tradition, le Brésil a été le premier pays à intervenir lors du débat général de cette 70e session. Sa présidente Dilma Rousseff a passé en revue les réussites ainsi que les échecs des Nations Unies. Elle s'est longuement exprimée sur la situation chaotique en Syrie et la masse de réfugiés qui quittent le pays. Après le Brésil, et conformément à la tradition, le pays hôte des Nations Unies a pris la parole. Aussi, pour marquer les 70 ans des Nations Unies, le président américain Barack Obama a appelé à renforcer les principes de l'ordre international posés par l'ONU, un système qui a permis d'éviter une troisième guerre mondiale au cours de ces 7 décennies d'existence. Le président américain qui a notamment plaidé pour la résolution des crises actuelles d'une manière pacifique et collective.
Imaginez si la Russie s'était engagée dans la vraie diplomatie et avait travaillé avec l'Ukraine et la communauté internationale à veiller que ses intérêts soient protégés. Ce serait mieux pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde. Cette crise doit être résolue d'une manière qui permette à une Ukraine démocratique et souveraine de déterminer son avenir et de contrôler son territoire. Il ne s'agit pas d'isoler la Russie, mais de vouloir une Russie forte qui soit investie dans le monde avec nous pour renforcer le système international.
To strengthen the international system as a whole.
Lors de son intervention, le président de la Chine a mis en exergue le principe de la souveraineté des États et souhaité que soit mise à fin la loi du plus fort. Xi Jinping a plaidé pour l'instauration des partenariats plutôt que d'alliances et a jugé nécessaire de concilier le développement industriel et la protection de la nature. Tige Schifferau.
Le président de la Chine a appelé à la mise en place de partenariats pour permettre aux pays de travailler sur un pied d'égalité et de mieux se comprendre. Il faut privilégier la justice contre la défense des intérêts particuliers, a-t-il souligné, invitant certains États à abandonner la logique de la guerre froide et appelant à privilégier le rôle central de l'ONU et du Conseil de sécurité pour maintenir la paix internationale. Xi Jinping a également plaidé pour la promotion d'un développement ouvert, novateur et inclusif qui profite à chacun. La Chine, a-t-il ajouté, assumera sa part de responsabilité pour la cause commune de la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Xi Jinping a annoncé que la Chine avait décidé d'établir un fonds de développement d'1 milliard de dollars sur 10 ans pour soutenir les activités de l'ONU en faveur du développement.
De son côté, le président russe Vladimir Poutine a appelé à combattre le IIL en appuyant le régime Al-Assad. Il est également revenu sur la situation en Ukraine. Explication d'Isabelle Dupuis.
Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a appelé lundi, depuis la tribune de l'Assemblée générale, la communauté internationale à s'unir au sein d'une coalition antiterroriste pour lutter contre l'État islamique d'Irak et du Levant, en soutenant notamment le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Vladimir Poutine a qualifié d'énorme erreur le refus de coopérer avec les autorités et l'armée gouvernementale syrienne, qui selon lui font preuve de beaucoup de courage en affrontant la terreur de l'État islamique. Le président russe a appelé les États membres à reconnaître que plus personne en Syrie ne mène le combat contre l'État islamique et d'autres organisations terroristes, à l'exception de l'armée gouvernementale et des milices kurdes.
Un nouveau chapitre s'est ouvert dans les relations de l'Iran avec le monde, a affirmé le président de la République islamique de l'Iran du haut de la tribune. Pour Hassan Rouhani, l'accord nucléaire récent de son pays et les six puissances s'est transformé en un instrument international avec l'approbation du Conseil de sécurité. Pour lui, il s'agit d'un brillant exemple de victoire de diplomatie sur la guerre et d'une base pour les réussites à venir. Face au terrorisme, le président iranien a réitéré que la seule façon de l'éradiquer était d'en éliminer les causes sociales, économiques et culturelles sous-jacentes. François Hollande, le président de la République française, a salué les progrès immenses accomplis depuis la création de l'ONU. Malheureusement, 70 ans après, il y a toujours des tragédies, des conflits et des guerres, et le monde doit relever des défis considérables. Il a évoqué les millions de réfugiés qui fuient au Moyen-Orient et en Afrique, le terrorisme qui frappe les populations civiles, les catastrophes naturelles et les dérèglements climatiques. Il est notamment revenu sur les défis qui se posent face à la conférence sur le climat à Paris en décembre, soulignant que rien n'est gagné pour l'accord de Paris sur le climat. Il a posé trois conditions, dont la conclusion d'un accord universel contraignant et différencié, l'inscription de l'action dans la durée avec un mécanisme de révision intégré à l'accord, mais aussi l'appui financier des pays développés.
La troisième condition qui marquera l'échec ou le succès, c'est que les pays développés auront à porter des engagements financiers. Je sais bien. Déjà à Copenhague, le chiffre avait été avancé, 100 milliards de dollars pour assurer le financement de la transition énergétique, l'adaptation, le transfert de technologies. Eh bien, nous devons rassembler 100 milliards en 2020, mais le dire dès aujourd'hui, pour que les pays émergents, les pays en développement puissent être sûrs qu'ils pourront être accompagnés, qu'ils pourront être soutenus, aidés, qu'il pourra y avoir justement ce saut de technologie, ce partage de technologie. 100 milliards.
30 septembre 2015, journée historique pour la Palestine qui a pu hisser pour la première fois son drapeau au siège de l'ONU en tant qu'État non membre observateur. Le président de la Palestine a pris la parole devant l'Assemblée générale et remercié les États qui ont appuyé son pays à obtenir ce droit. Mahmoud Abbas a appelé tous les États qui disent appuyer la solution à deux États de reconnaître le deuxième État, la Palestine, en tant que tel. Il a également annoncé que la Palestine ne se considérait désormais plus liée par les accords d'Oslo de 1993 ainsi que par les autres accords de paix signés ultérieurement avec Israël suite aux actions de ce dernier.
I've long said that the greatest danger facing our world.
Pour sa part, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a dénoncé l'accord récemment conclu sur la question du nucléaire iranien et l'a qualifié de menace pour la paix. Selon lui, la vaste majorité des Israéliens croit que cet accord avec l'Iran est une bien mauvaise affaire. 70 ans après le meurtre de 6 millions de Juifs, les dirigeants iraniens promettent la destruction de mon pays, de tuer mon peuple, et la réponse de cette assemblée, la réponse de presque tous les pays ici présents, a été de ne rien dire. Un silence total. Benjamin Netanyahou, qui a également appelé l'autorité palestinienne à reprendre immédiatement des négociations directes sans conditions préalables. L'Afrique francophone est à présent, elle aussi. Parmi les intervenants des pays en crise, la présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a dû écourter son voyage et rentrer à Bangui pour apaiser la reprise des violences dans son pays. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle apporte un soutien technique et financier à la mise en œuvre de l'accord de paix intermalien parachevé en juin 2015. Ibrahim Boubacar Keïta.
Cet accord issu du processus dit d'Alger a été laborieux, mais il est conclu. Et cet accord, sans être la panacée, sans résoudre tous les problèmes, nous offre un cadre dans lequel nous pouvons évoluer vers une paix durable et soutenable. Un accord de paix consensuel qui sert de cadre général pour la résolution du conflit durable de toutes les parties du Mali, dans toutes les dimensions, est une première dans l'histoire du Mali. Cela est un nouveau pacte social au Mali, entre fils du Mali. Un nouvel engagement collectif pour la paix et la concorde dans ce pays. Cet accord vient sceller la retrouvaille entre nous. Il est le résultat de la volonté de l'ensemble des parties maliennes et de l'engagement de tous pour que nous soyons aujourd'hui dans la phase où nous sommes de mise en application de cet accord de paix.
Le président malgache a pour sa part été reconnaissant de l'appui que les Nations Unies ont porté en faveur de la paix dans son pays qui se porte de mieux en mieux. Eri Rajao Narimampian a affirmé que son gouvernement comptait gérer les ressources dont regorge son pays en faveur de sa population.
Les ressources ne sont pas intarissables, donc il faudrait les gérer. Mais de l'autre côté, le paradoxe, c'est qu'il y a aussi des réseaux qui sont en train de piller carrément ces ressources-là. Nous, notre objectif en tant que dirigeants, c'est de mettre à profit ces ressources dans l'intérêt de la population, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est d'abord une stratégie, c'est de la volonté de défendre ces ressources-là et de les exploiter au bénéfice de la population et de les préserver aussi, bien évidemment, au bénéfice de la population. Je parlais de ressources marines, de ressources terrestres, ressources minières, naturelles, etc. Surtout au niveau des ressources marines, nous avons une surface marine qui est plus importante même que la surface terrestre et cette surface, nous avons du mal à la contrôler et on sait qu'il y a des réseaux qui rentrent dans ce territoire pour piller nos ressources. Donc, il faut défendre ça.
Lors de ce 70e débat général, les Seychelles ont souligné l'importance du nouvel agenda de développement durable, l'objectif 14, qui s'adresse aux spécificités des petits États insulaires et porte sur la conservation et l'exploitation des océans de manière durable, leur est prioritaire. Le président de l'archipel nous a expliqué en quoi il est important et surtout quelles sont les vulnérabilités auxquelles le pays est confronté. James Michel.
Pour nous, les petits États insulaires, ce qui est plus important, c'est l'objectif 14, qui touche aux besoins, aux spécificités, aux vulnérabilités de ces petits États. Les vulnérabilités sont nombreuses et réelles. Par exemple, il y a le changement climatique qui nous touche beaucoup, qui peut conduire à la disparition de certaines de nos îles. Il y a l'érosion de nos côtes, il y a l'acidification de nos terres arables. Également, il y a la migration des poissons, il y a le blanchissement des coraux et il y a aussi le changement du temps qui, à un certain moment, nous amène des inondations, aussi la sécheresse. Et aussi, nous avons vu tout dernièrement dans le Pacifique des cyclones qui ont pratiquement détruit des villes. Et tout ça sont des résultats des changements climatiques qui touchent directement aux petits États insulaires.
Enfin, le Sénégal s'est, lui, félicité des bases jetées à travers la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, pour réduire les inégalités et arrêter l'exploitation des ressources de la planète. Macky Sall est revenu sur les priorités de son pays face au nouvel agenda des objectifs de développement durable. À l'approche de la réunion à Paris sur le changement climatique en décembre, le dirigeant sénégalais a souligné le bien fondé de la responsabilité commune mais différenciée et du principe pollueur-payeur.
La perte de l'Afrique sur ce trafic illicite fait plus de 60 milliards de dollars chaque année. C'est déjà plus que l'aide publique au développement. L'Afrique, en ce moment, n'a pas besoin d'aide si on rémunère justement ses ressources, si on renforce la démocratie, bien sûr, et on lutte contre la corruption, contre les trafics illicites. Mais ces trafics illicites, ces paradis fiscaux, ils ne sont pas en Afrique. Donc c'est un combat global. Voilà le sens du plaidoyer que j'ai fait pour dire oui pour la transparence et que aussi pour le climat. On nous demande de renoncer à des sources d'énergie pourtant compétitives, mais polluantes, comme les autres l'ont fait depuis des décennies. Alors si nous devons renoncer, par exemple, au charbon pour faire de l'électricité, au nucléaire et autres, ben, il faut que les ressources de l'adaptation soient à notre disposition, que nous puissions accéder aux technologies modernes pour aller vers les énergies renouvelables, mais compétitives sur la base de subventions peut-être ou de compensations qui pourraient être faites. Sinon, vraiment, c'est un jeu de dupes. Et nous serons obligés en ce moment de faire comme tout le monde, de recourir finalement à l'énergie la moins chère et donc de contribuer à la pollution de notre planète et donc d'accélérer le réchauffement climatique. Et c'est tout le monde qui y perd.
Et c'est avec les paroles engagées de Macky Sall que se referme ce tour d'horizon du 70e débat de l'Assemblée générale des Nations Unies. Escale. Le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de l'ensemble de l'équipe de la radio. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.